Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec vous les auditeurs. Vous le savez, vous avez la parole dès 13h, on vous attend au 32-10 à la une, les dernières heures de campagne, bien sûr, avant le premier tour de cette présidentielle. Nous irons aussi en Ukraine, où la gare de Kramatorsk a été prise pour cible ce matin. C'est par là que fuient les civils de l'Est, il y aurait au moins 35 morts. Et puis on vous emmènera aussi à Toulouse, la cathédrale a été évacuée en pleine messe ce matin après l'irruption d'un homme. Patrick Hisson nous attend sur place. À 12h40, point complet sur ses dernières intentions de vote avec notre baromètre BVA. Et puis à 12h50, suite et fin de notre série Un jour, une proposition. On parle aujourd'hui argent. Qui propose quoi en matière d'impôts? Notre question du jour sur RTL.fr. Dites-vous à vos proches pour qui vous allez voter? Vous dites oui à 61%. La météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et à la une, la tempête Diego, bien sûr, est toujours 5 départements en alerte orange.
Exactement, il s'agit surtout des départements situés au nord de la Nouvelle-Aquitaine et ceux du Massif central, où les vents sont les plus forts et pourraient dépasser les 110 km/h. Et puis associé à ces fortes rafales, des pluies copieuses sur une bonne moitié nord, mais particulièrement marquées du quart nord-est jusqu'aux Alpes, avec un risque d'avalanche d'ailleurs très élevé.
Merci Claire, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Pour chacun des 12 candidats, c'est donc la toute dernière ligne droite, dernières heures de campagne à partir de ce soir minuit, terminée. On ne les verra plus, on ne les entendra plus, c'est la règle jusqu'au premier tour. Marine Le Pen était ce matin à Narbonne.
Une campagne électorale, c'est pas une castagne. Une campagne électorale, c'est la capacité d'offrir aux Français des visions, pour le coup, fondamentalement divergentes. Moi, j'assume totalement d'avoir un projet radicalement différent de celui d'Emmanuel Macron. Mais on peut très bien exprimer cette divergence par des arguments, par une confrontation des idées, et en aucun cas par une bagarre, comme il semble vouloir l'espérer.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet, la candidate du Rassemblement National qui réduit l'écart avec Emmanuel Macron dans notre dernier baromètre BVA pour RTL et Orange. Le président sortant était justement l'invité de RTL ce matin.
Je me considère toujours comme ayant à conquérir, et j'ai d'ailleurs vécu comme ça c'est les 5 années qui viennent de s'écouler. Je ne considère pas que les choses sont acquises, j'ai jamais été dans l'excès d'assurance, je ne suis pas non plus dans la fébrilité. Je considère que ce que j'ai à faire, c'est d'abord de continuer à présider jusqu'à la fin. Et en même temps, comme vous auriez dit, puisque cette formule vous doit beaucoup, conquérir, convaincre, avancer. Et donc c'est comme ça que je fais. J'ai l'esprit de conquête plutôt que l'esprit de défaite.
Et Emmanuel Macron sur RTL ce matin avec Alba Ventura et François Langlais. Plus que 2 jours donc avant ce premier tour, mais plus que quelques heures pour faire une procuration si besoin. En théorie, vous avez jusqu'à demain, veille du scrutin, mais il faut le temps que votre procuration arrive jusqu'au bureau de vote. Frédéric Perruche, bonjour. Vous êtes devant le commissariat bonjour. Du 2e arrondissement de Lyon et ça ne se bouscule pas vraiment.
Oui, ça arrive doucement, mais sûrement devant ce commissariat central de la Presqu'île, des étudiants essentiellement, comme Naël, 21 ans, qui vient faire valider sa procuration pour son papa, qui votera pour elle, donc en Haute-Savoie, dimanche.
En fait, je suis inscrite sur la commune où je suis née et où habitent mes parents, sauf que c'est à 3 heures de train et je fais mes études à Lyon, donc juste faire l'aller-retour pour ça, c'est un peu compliqué, donc j'ai décidé de faire procuration, comme ça, il peut voter à ma place.
C'est rapide, peu contraignant et pour Maxime, 23 ans, important ce vote par procuration via son père, essentiel pour la démocratie, pour faire entendre sa voix.
Je trouve ça important, enfin c'est important à l'heure d'aujourd'hui de voter en tant que moi étudiant, de pouvoir représenter ma voix et qu'on puisse donner notre parole et donner notre point de vue sur la politique en France aujourd'hui.
Vous lui faites confiance? Il mettra le bon bulletin?
Oui, voilà, il mettra le bon bulletin. Non, je le sais, je lui fais confiance parce qu'il est ouvert d'esprit et qu'il comprend ce que je veux prôner, quoi.
Voilà, et pour les retardataires, vous l'avez dit, vous avez jusqu'à demain toute la journée pour faire la démarche, mais c'est plus sûr aujourd'hui.
Frédéric Perruche, en direct de Lyon pour RTL. En Ukraine, on le redoutait, ça se précise, la Russie se recentre sur l'Est. Ce matin, la gare de Kramatorsk, l'une des grandes villes du Donbass, encore aux mains des Ukrainiens, a été bombardée. Bonjour Sophie Joussin.
Bonjour.
Il y aurait au moins 35 morts.
Oui, 35 morts, dont au moins 2 enfants et plus d'une centaine de blessés. Les premières images montrent des corps allongés au sol. sol, des valises éventrées, des poussettes abandonnées. Selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ce sont deux missiles russes qui ont été lancés sur la gare où se pressaient 4000 personnes, selon le maire de Kramatorsk. Car depuis plusieurs jours, les autorités de la ville appellent la population à partir, à se réfugier à l'ouest du pays avant que la Russie lance son offensive terrestre prévue dans une dizaine de jours. La bataille de Kramatorsk fait craindre des combats extrêmement violents et meurtriers. Cette ville industrielle en plein bassin houillé du Donbass est aujourd'hui sous direction ukrainienne, sera une des prochaines cibles des troupes russes dans leur conquête de la totalité du Donbass.
Merci à vous Sophie Jousselin pour ces explications. Une offensive qui se précise donc et des témoignages de l'horreur qui continue de nous arriver. Celui notamment, et c'est un document RTL d'Aurélien. Lorsque la guerre a débuté, il était en vacances pour quelques jours chez ses beaux-parents à Hostomel. Il y sera finalement resté un mois, terré dans les sous-sols. Il témoignera lundi devant le parquet antiterroriste français.
Moi, je l'ai vu sous mes yeux. Des gens mourir, je les ai vus. Des gens se faire tirer dessus, des maisons brûlées. J'ai vu toutes ces images. On voyait des Russes tous les jours, on voyait des tanks rentrer dans des jardins, des Russes tirer sur les gens dans les maisons pour pouvoir prendre part à la maison. On voyait des voitures partir avec des chiffons blancs, avec écrit enfant dessus, se faire tirer dessus. C'était ça toute la journée. Il faut dévoiler au monde ce qui se passe à 2500 km de nous, une boucherie.
Aurélien, le témoignage recueilli pour RTL par Mourad Djabari. C'est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sont en route pour Kiev. Un geste fort et symbolique alors que les nouvelles sanctions contre la Russie ont été votées hier au Parlement européen. Un embargo notamment sur le charbon russe. Pas question pour l'instant de couper le gaz en provenance de Russie, mais les Français, eux, y sont favorables à 81%. C'est le résultat de notre baromètre BVA pour RTL et Orange. 12h36 sur RTL. Je vous emmène à présent à Toulouse après l'irruption d'un homme ce matin dans la cathédrale Saint-Étienne en pleine messe. Bonjour Patrick Hisson, vous êtes sur place pour RTL.
Bonjour.
L'individu a déposé un colis suspect au pied de l'autel avant de prendre la fuite.
Oui, en mots d'abord, pour vous dire que le périmètre de sécurité vient d'être levé autour de la cathédrale, là où effectivement un homme a fait irruption ce matin à 8h25 alors qu'une messe était célébrée, une cérémonie religieuse à laquelle assistait cette Toulousaine.
Il y a un monsieur qui est arrivé, vite vite, qui a tracé et qui a déposé un colis devant l'autel. Il s'est échappé vite en courant, le sacristain lui a couru après, a essayé de le ceinturer, mais il est parti.
L'homme qui portait un masque et une casquette a également prononcé quelques mots difficiles à comprendre selon cet autre témoin.
Vous, de toute façon, un truc comme ça. C'est tout. Je vous dis, je suis tellement choquée que les mots, après, je m'en rappelle pas. Je me rappelle de la violence et de la peur, quoi.
La cathédrale a immédiatement, bien sûr, été évacuée. Quant au colis déposé auprès de l'autel, il s'agissait d'un engin explosif improvisé, sans dispositif de mise à feu, un colis neutralisé. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques minutes maintenant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Patrick Hisson, direct de Toulouse pour RTL, au procès du 13 novembre. Un témoignage important cet après-midi, celui de cette jeune femme qui a dénoncé le chef du commando deux jours après les attentats. Elle a sans doute permis Thomas Proto d'éviter une nouvelle attaque.
Oui, un attentat dans un centre commercial de La Défense programmé par Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des tueries de Paris et Saint-Denis. Le djihadiste est alors aux abois. Il se cache au bord d'une voie rapide en banlieue et fait appel à sa cousine pour lui trouver une planque. Celle-ci vient lui apporter à manger avec une amie. C'est la femme qui va témoigner cet après-midi. Car lorsque Sonia, c'est un prénom d'emprunt, comprend qui elle a rencontré, elle prévient la police qui va retrouver et neutraliser Abaoud lors de l'assaut à Saint-Denis. Mais la mère de trois enfants n'imaginait sans doute pas le prix à payer, une nouvelle vie sous la menace des islamistes et un changement d'identité complet pour elle et ses enfants avec des actes administratifs notamment qui tournent souvent au cauchemar pour ne jamais dévoiler son ancienne identité. Sonia témoignera anonymement et par vidéo tout à l'heure. Elle veut dire tout ce qu'elle sait, tout ce que lui a dit le chef du commando avant qu'elle ne le dénonce. Un témoignage pour éclairer la cour et les victimes, mais aussi pour dire, selon son avocate, que si elle devait le refaire, elle le referait.
Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL à Pontoise, dans le Val-d'Oise, les deux adolescents qui étaient jugés depuis le début de la semaine pour le meurtre d'Alisha, cette jeune fille morte, noyée dans la Seine après avoir été harcelée, ont été condamnés. 10 ans de prison hier soir. C'est trop peu, a dit la mère de la victime qui regrette que la qualification d'assassinat retenue dans un premier temps ait été abandonnée.
Moi, je comprends pas la justice, c'est quoi ça? Je suis où ici? J'attendais de la justice quelque chose. Eux, ils vont sortir après 10 ans. Attendez, mais c'est quoi ça? Ma fille, elle était tuée, tabassée. Elle a dit, arrêtez! Vous comprenez ça? Arrêtez, elle a dit. Ils ont quand même fait. Ils ont tué, ils ont jeté elle dans l'eau. Eux, ils vont être intégrés dans la société. Mais ma fille, est-ce qu'elle va revenir? Non!
La douleur, la colère de la mère d'Alisha au micro RTL de Nicolas Burnand. Les chiffres du Covid, et ça se confirme, le nombre de contaminations continue de baisser. On le voit notamment à l'école, 69 599 cas parmi les élèves contre plus de 88 000 la semaine dernière. Les enfants qui, pour certains, sont en vacances ce soir, ceux de la zone B, les académies d'Aix-Marseille, de Lille, de Nancy-Metz ou encore de Nantes. Pas de difficultés en vue, sur les routes. Si vous aviez l'intention de prendre votre voiture, je vais y arriver. Ce sera vert, fluide, donc tout le week-end. 12h, bientôt 41 sur RTL. Vous restez avec nous. On marque une toute petite pause. Dans un instant, les dernières intentions de vote à 48 heures maintenant du premier tour de la présidentielle. À tout de suite sur RTL.
RTL Midi.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Vous allez voter dimanche ?
Ah, bien sûr.
Vous avez fait votre choix ?
Ah, tout à fait. Il est fait depuis longtemps. On aura peut-être une surprise.
Mon choix est fait. Ça peut changer.
Je vais voter. Je pense que, ouais, il n'y aura pas de surprise.
Bah, c'est une campagne de dispute comme toujours, mais là, 12 candidats, je pense que ça fait beaucoup. Moi, je dis qu'il y aura beaucoup d'abstentions. Puis en plus, bah, dimanche, il va faire beau. C'est les vacances scolaires, il ne faut pas l'oublier.
À deux jours du premier tour de la présidentielle, chacun y va de son pronostic. À Émerin, dans le Nord, comme ici, comme d'ailleurs partout en France, la campagne officielle s'achève ce soir à minuit. Dernier baromètre BVA avant le jour J. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Pazik.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, directrice du département opinion chez BVA. On entendait cette dame qui disait qu'il va y avoir beaucoup d'abstention. Ça, c'est la grande inconnue, on est d'accord, de ce scrutin?
Oui, c'est la grande inconnue et c'est ce qu'on a toujours du mal à mesurer dans les instituts, mais encore plus cette année, si on s'en tient strictement à ce qu'on a fait en 2017 et qu'on applique la même méthode de manière très empirique et au regard de ce que les électeurs nous déclarent aujourd'hui, la participation pourrait dans son étiage haut avoisiner 76%. C'est tout de même moins qu'en 2017, on était à près de 78%. Et puis dans le même temps, d'autres indicateurs nous font redouter une abstention encore plus forte. On l'a vu ensemble tout au long de la campagne qu'il y avait un intérêt qui était assez médiocre,
flottant,
des Français,
oui.
Flottant, oscillant. On a vu que jusqu'à la semaine dernière, il y avait encore un tiers des électeurs qui ne connaissaient pas la date du scrutin. Donc quand on croise d'ailleurs connaissance de la date du scrutin et intention d'aller voter, on a un étiage bas à 69%, donc une participation moyenne à 72,5%. J'ai pas de boule de cristal, mais donc on pourrait avoisiner le record de 2002. Je pense pas qu'on le battra, en toute honnêteté. Mais
le record de 2002, c'était 28,4% d'abstention.
Voilà, exactement. Je pense pas qu'on sera au-delà. Même en même temps, tout va vraiment dépendre des dernières 48 heures et des choix qui vont être faits par.
Pourquoi c'est si difficile comme ça d'estimer, d'appréhender l'abstention?
En fait, c'est difficile parce que le vote, ça dépend de, enfin, la décision d'aller voter ou pas, et même le vote, ça dépend de plein de facteurs, des facteurs qui sont de moins en moins structurels. Avant, on parlait des déterminants du vote, votiez en fonction de votre appartenance sociale, de votre famille, etc. C'est toujours un peu vrai, mais ça l'est moins. Il y a beaucoup plus de facteurs individuels qui rentrent en ligne de compte. Et ça dépend aussi de votre état d'esprit du jour, et on voit qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont encore hésitants. Donc, il y a des choses qui vont se passer le jour J, qui vont peut-être se dire, je vais voter, pas voter. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'offre électorale, de la campagne, et on l'a vu dans notre enquête, on le voit encore, dans les motifs qui pourraient inciter des gens à ne pas aller voter, il y a ce sentiment, beaucoup plus que d'habitude, que les jeux sont déjà faits. Donc une campagne un peu jugée morne et sans enjeu, mais peut-être que le resserrement des dynamiques en cette fin de campagne pourrait inciter à davantage aller voter, mais tout ça fait que c'est très compliqué à mesurer.
Alors justement, resserrement des dynamiques, si on regarde les intentions de vote, Emmanuel Macron est toujours en tête, mais l'écart se resserre avec Marine Le Pen.
Oui, tout à fait. Pour la troisième fois consécutive, Emmanuel Macron perd un point dans les intentions de vote. Il a 26%, un point de moins que la semaine dernière. Ça reste toutefois un niveau supérieur à celui qu'on mesurait avant le début de la guerre en Ukraine. Mais pour autant, effectivement, vous l'avez dit, il n'a plus l'avance qu'il avait sur sa principale challenger, Marine Le Pen. Au moment de la guerre en Ukraine, ils avaient plus de 10 points d'écart. La semaine dernière, on était encore à 6 points d'écart. Là, on passe à 3 points d'écart seulement, c'est-à-dire qu'ils sont dans les marges d'erreur. Et parce qu'effectivement, Marine Le Pen, de son côté, bénéficie d'une dynamique très très forte en cette fin de campagne. Plus 7 points depuis le début du mois de mars, 23% des intentions de vote.
Derrière, on a Jean-Luc Mélenchon qui continue de progresser lui aussi, est dans une dynamique.
Oui, complètement. 17,5% d'intention de vote, plus 2 points depuis la semaine dernière, plus 8 points et demi depuis le début du mois de février. Donc une vraie belle dynamique, mais qui semble néanmoins insuffisante pour pouvoir se qualifier au second tour, parce qu'en même temps qu'il progresse, Marine Le Pen progresse dans les mêmes proportions. Donc il l'assume et ne la rattrape pas.
Bon, pas loin des 10%, on a Éric Zemmour, puis Valérie Pécresse qui est donc derrière Éric Zemmour.
Oui, tout à fait. Éric Zemmour conserve 9,5% d'intention de vote. Comme la semaine dernière, il avait beaucoup baissé, notamment après le début de la guerre en Ukraine. Elle n'est plus créditée, Valérie Pécresse, que de 8,5% des intentions de vote. Elle a perdu 4,5 points depuis le début du mois de mars. Et globalement, d'ailleurs, elle n'a fait que baisser depuis le début de sa campagne. Après son pic au moment de sa nomination, elle n'a fait que dégringoler dans les sondages. Et un point souligné, elle ne convainc seulement aujourd'hui qu'un gros tiers des électeurs de François Fillon de 2017. 35% seulement.
On continue à passer en revue chacun des 12 candidats. Yannick Jadot, lui, il passe sous la barre des 5%. On rappelle que c'est un seuil important, puisque c'est au-delà des 5% que les frais de campagne sont remboursés. Là, ce serait que à hauteur de 800 000 euros.
Oui, c'est ça. Et on le mesure aujourd'hui à 4,5% parce qu'il pâtit de la mécanique de vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon potentiellement. Donc cette fin de campagne, pour l'instant, il en pâtit. Il n'arrive pas à capitaliser, c'est incroyable, sur l'urgence écologique. Le rapport du GIEC l'a rappelé. Et pour autant, il n'y arrive pas.
Fabien Roussel, Anne Hidalgo, eux aussi, ils pâtissent de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, tout à fait. Fabien Roussel, c'est très clair. Anne Hidalgo, en cette fin de campagne, elle stabilise un petit socle à 2,5%, comme s'il y avait toute une partie comme de son électorat qui disait, bon voilà, le vote final, c'est un vote de cœur, mais ça reste un niveau quand même extrêmement faible, 2,5 et 3% pour Fabien Roussel. Et 2,5, pardon, aussi pour Fabien Roussel.
2,5 également pour Jean Lassalle.
Alors si ça se confirmait, il faudrait quand même dire qu'il doublerait son score par rapport à 2017. Il a sans doute bénéficié aussi en cette fin de campagne d'un effet visibilité, temps de parole. Voilà, on verra dimanche si ça se confirme.
Puis il a une certaine popularité. Il y avait eu un sondage sur celui avec lequel
on a envie de boire une bière,
exactement. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est à 2% en baisse. Baisse également pour Nathalie Arthaud.
Oui, tout à fait. À 0,5% d'intention de vote, c'est à peu près son score de 2017. Les trotskistes, de toute façon, que ce soit elle ou Philippe Poutou, sont dans l'étiage qui était leur en 2017. Assez loin des scores que réalisaient leurs prédécesseurs, je pense à Arlette Laguy et Olivier Bedancenot, qui frôlaient les 5%, même 5% pour Arlette Laguy en 2002. On en est quand même assez loin.
Et Nicolas Dupont-Aignan, donc à 2%, lui, il pâtit de la dynamique Marine Le Pen ou...
Il pâtit de son espace politique qui est mangé par Éric Zemmour, Marine Le Pen, qui fait qu'il n'a plus vraiment d'espace politique.
Bon, Adélaïde, vous restez avec nous parce qu'on va échanger ensemble avec les auditeurs et on parlera aussi de l'état d'esprit des sondeurs à 48 heures de ce scrutin, les sondeurs qui sont souvent pointés du doigt, à tort ou à raison, on en débattra dans quelques minutes. Vous restez avec nous dans un instant, c'est un jour une proposition, on parle fiscalité aujourd'hui, à tout de suite sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Présidentielle 2022.
J-2.
Et à deux jours donc de ce premier tour, RTL Midi continue de passer au crible les programmes des candidats alors que les déclarations d'impôts sont disponibles depuis hier. On a choisi aujourd'hui de vous parler fiscalité. Qui propose quoi ? Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Et c'est vous qui vous êtes penché sur la question. Alors quand on parle impôts, il y a toujours deux camps, Martial. Hein, ceux qui proposent de les baisser, ceux qui proposent de les augmenter. On commence avec les candidats qui promettent de les baisser.
Alors, il y a Emmanuel Macron qui poursuit sur sa lancée puisqu'il promet 15 milliards de moins pour les ménages en 5 ans. Vous avez Marine Le Pen, elle ne change pas grand-chose à la grille actuelle de la fiscalité, mais elle exonère de l'impôt sur le revenu tous les moins de 30 ans. Alors, il y a quand même deux problèmes à signaler, hein. Pas sûr que ce soit constitutionnel, déjà, au nom du principe d'égalité face à l'impôt qu'on connaît bien. Et puis, ça avantagerait finalement les jeunes qui sortent des grandes écoles avec un bon salaire sans rien changer pour les autres qui sont déjà non imposables. Après, vous avez Valérie Pécresse qui, elle, augmente le plafond du crédit d'impôt pour les aides à domicile. Ce sont les femmes de ménage, les nounous. Alors ça fait évidemment baisser l'impôt à la fin. Et on termine avec Éric Zemmour qui permet de débloquer plus facilement son épargne salariale sans payer d'impôt sur le revenu à la fin.
Dans le camp de ceux qui augmentent les impôts, on trouve qui ?
Ah bah alors là, vous avez plutôt des candidats de gauche, plutôt, évidemment, ciblant plutôt les riches, c'est normal aussi, et c'est essentiellement en jouant sur le barème des tranches. Jean-Luc Mélenchon, il crée 14 tranches, vous en avez 5 aujourd'hui, hein. Ça lui permet d'augmenter la contribution des plus riches, et au final, il promet donc 10 milliards d'impôts en moins pour 90% de la population. Alors pour vous faire une idée, ça veut dire ceux qui gagnent moins de 8000 euros, quoi. Et puis 5 milliards d'impôts en plus pour les autres. C'est un peu la même logique chez Yannick Jadot, et puis chez tous les autres candidat d'extrême gauche, bien sûr.
Marcel, on a un peu le sentiment que la réforme de l'impôt est moins présente dans les programmes que les autres fois. D'habitude, ça fait vraiment partie des sujets dont on parle.
Oui, c'est vrai. Alors ça, il y a moins d'inventivité, c'est vrai, que d'habitude. Il faut aussi quand même rappeler au passage que vous n'avez que 44% des foyers qui paient l'impôt sur le revenu depuis François Hollande. Hein. Donc là, finalement, si on est efficace, on parle à moins d'un électeur sur deux. On se souvient aussi qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait marqué des points la dernière fois en supprimant la taxe d'habitation. Il tente la même chose avec la suppression de la redevance télé, mais ça marque moins les esprits, on le voit bien. Même chose aussi avec sa volonté de permettre aux concubins de faire une déclaration avec les mêmes avantages qu'un couple marié ou paxé. On en a un peu parlé, mais ça n'a pas vraiment imprimé. Et ce qui est amusant à voir, c'est que Yannick Jadot fait la proposition inverse, lui, puisqu'il veut mettre un terme aux cautions conjugales cette fois. Ça, c'est pour que les revenus des femmes apparaissent, que ça souligne le fait qu'elles sont moins bien payées que leurs conjoints, mais là aussi, ça n'imprime pas trop. En fait, les candidats, ils se sont concentrés cette année sur les mesures de pouvoir d'achat, sur les salaires, beaucoup plus que sur les impôts, parce que l'obsession du moment, c'est la montée des prix et c'est l'urgence de la fin du mois, quoi.
Et quand on pense impôts, il y a aussi l'ISF. 9 candidats sur 12 veulent le rétablir.
Alors là, ils le ressuscitent ou ils le redéfinissent. En gros, on ne touche pas au dispositif actuel si on s'appelle Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou Éric Zemmour. Marine Le Pen, elle supprime l'impôt sur la fortune immobilière, donc celui qui a été mis en place par Emmanuel Macron, pour le remplacer par un impôt sur la fortune financière. En gros, on taxe la spéculation et plus l'immobilier. De l'autre côté, vous avez Mélenchon, Roussel, Poutou, Lassalle, Dupont-Aignan qui rétablissent l'ISF, purement et simplement. Et puis vous avez un ISF vert, ça c'est nouveau. C'est Yannick Jadot et Anne Hidalgo. En gros, l'idée, c'est un impôt qui viserait les plus riches et dont les recettes iraient à la transition énergétique, à la lutte contre le réchauffement climatique. Je rappelle juste que l'ISF, ça rapportait un peu plus de 3 milliards. L'IFI, ça rapporte un peu plus d'un milliard. Et on n'a pas démontré en 5 ans que ça permettait de réinjecter de l'argent dans l'économie, comme l'avait promis Emmanuel Macron.
Un dernier point, Martial, il y a un sujet qui a fait beaucoup parler au début de la campagne, c'est la réforme de l'impôt des successions.
Oui, parce que la succession, c'est devenu un enjeu majeur pour les retraités, qui sont quand même les gros voteurs, je rappelle. C'est cet argent des héritages qui permet aussi de financer les dernières années, la dépendance. Et c'est une vraie inégalité sociale, puisque les Français les plus riches bénéficient d'héritages en moyenne 180 fois plus élevés que ceux des Français moyens.
180, oui.
Donc ça, évidemment, ça crée des dynasties d'héritiers qui possèdent 60% du patrimoine national. C'est ce que montrait le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités mondiales. Donc, vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui augmente les droits de succession des plus riches en comptant tous les dons, les héritages reçus tout au long de la vie. Vous avez Yannick Jadot qui supprime, lui, les exonérations pour les très riches. Et puis surtout à gauche, on baisse les plafonds. Anne Hidalgo, elle souhaite abaisser la fiscalité des successions pour 95% des Français. Fabien Roussel promet un abattement, lui, de 118 000 euros sur les droits de succession. À droite, on est évidemment un peu plus clément avec ce genre de donation, puisque Valérie Pécresse double les exonérations sur les successions jusqu'à 200 000 euros. C'est à peu près la même chose chez Éric Zemmour. C'est un tout petit peu moins chez Emmanuel Macron, mais c'est la même idée. Actuellement, vous avez un abattement de 100 000 euros pour chaque enfant. Ensuite, c'est progressif avec 45% de taxation au-delà de 1,8 million d'euros. Je rappelle quand même que selon la Banque Richelieu, ça permet déjà, le système actuel, d'exonérer 87% des successions.
Un jour, une proposition signée Martial Youx. Merci beaucoup à vous, Martial. 12h57 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Vous avez la parole, vous connaissez le principe. 32-10, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la pensée.
Il est 13h.
Jusqu'à 14h30,
les électeurs ont la parole sur RTL.
Avec Amandine Bégaud.
Et oui, les auditeurs ont la parole, rebaptisés électeurs ont la parole, vous le savez, à 2 jours maintenant du premier tour de cette présidentielle. On va vous entendre dans un instant. Savez-vous pour qui vous allez voter? On va juger, analyser ces dernières heures de campagne. Les 12 candidats, en tout cas, n'ont plus que quelques heures pour convaincre. La campagne officielle s'achève ce soir à minuit. En déplacement dans le Vaucluse, Valérie Pécresse indique d'ores et déjà qu'elle ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour.
Quel que soit le résultat des élections, j'ai toujours pris mes responsabilités et j'ai toujours appelé à voter et dit pour qui je votais. Donc je le ferai, quel que soit le résultat. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est de sélectionner pour le deuxième tour et que la droite, la vraie droite, l'emporte cette élection.
L'autre grand titre de l'actualité, bien sûr, c'est la guerre en Ukraine. La Russie dément avoir frappé la gare de Kramatorsk. Elle parle de provocation. Au moins 35 personnes ont été tuées ce matin, une centaine d'autres blessées. C'est de cette gare que partent la plupart des civils qui tentent de fuir l'est du pays où, vous le savez, la Russie a décidé d'intensifier et de recentrer son offensive. Notre météo avec vous, Claire Delorme. Cette tempête Diego, et on est visiblement au plus fort de la tempête, c'est ça?
Exactement. On relevait déjà ce matin
80 km/h à Châteauroux dans l'Indre ou encore en montagne 120 km/h à Superbès dans le Puy-de-Dôme. Donc des rafales comme vous le dites qui vont s'intensifier sur l'ensemble du pays cet après-midi, pouvant dépasser les 110 km/h en plaine en direction de l'Auvergne et de la région Poitou-Charentes. C'est d'ailleurs pourquoi 5 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Donc associé à ces vents forts, de la pluie qui sera temporairement plus soutenue pour les départements au nord de la Loire vers le quart nord-est, et d'ailleurs quelques flocons pourraient blanchir les sols de la Picardie aux Ardennes ainsi qu'en direction des Vosges. Mais alors là, de la neige, on en attend en abondance en direction des Alpes, de 60 jusqu'à 1 mètre de neige fraîche à partir de 1800 mètres d'altitude. Vous vous doutez bien que ça va rendre le manteau neigeux très instable, d'où un risque d'avalanche d'ailleurs très marqué. Donc moralité, pour un temps beaucoup plus calme et sec, il faudra vous rendre en direction des Pyrénées mais aussi de la Méditerranée, à l'exception de la Corse qui pourrait aussi avoir des rafales de vent tempétueuses dépassant les 130 km/h pour les caps les plus exposés, avec des températures comprises pour la moitié nord entre 5 et 14 degrés avec 6 degrés à Lille ou encore à Paris, et pour la moitié sud de 12 jusqu'à 23 degrés avec 17 degrés que ce soit à Lyon ou encore à Bordeaux.
Et demain ça se calme?
Absolument, ça va même se calmer dès cette nuit. À partir de 22h on devrait plus avoir de vent, et puis donc pour samedi ça sera quand même une belle journée, surtout une très belle après-midi avec du soleil majoritaire. Pareil pour dimanche, vraiment une très belle journée avec en prime eh bien une hausse du mercure généralisée, que ce soit pour le nord tout comme pour le sud.
Merci beaucoup Claire.
Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
avec Amandine Bégaud.